Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler en direct dans le studio 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40. Également les réactions sur la page Facebook de VOA Afrique pour participer à notre émission. On va prendre également vos appels, évidemment, et on va saluer nos consultants ce soir, notamment Thierry Kambundi, qui est à Kinshasa via Skype. Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de Sporama.
Et on va faire un grand coucou également à Jules Valentin-Goué à Libreville. Bonsoir Jules.
Ah, Nicolas, bonsoir à tous.
On va également saluer Élisée Oumpatine à Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Voilà, merci à tous d'être avec nous ce soir. On va évidemment parler beaucoup de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, puisque les 3e et 4e journées, évidemment, avaient lieu le week-end, évidemment, dernier. Et également, en début de semaine dernière, il y a eu des surprises et il y a eu un pays qualifié, le premier pays, évidemment, le Maroc, d'Hervé Renard. On va revenir avec vous. On parlera également de l'élimination du Nigeria. Encore un coup dur, on va dire, pour les Super Eagles. On va faire le point ce soir, évidemment, avec vous, chers amis. On va commencer par le groupe A. Le groupe A où la Tunisie, évidemment, qui caracole en tête avec 9 points après cette 4e journée. La Tunisie qui s'est d'abord imposée chez elle à Monastir avant, effectivement, de voir un match nul 0-0. C'était au Togo. Le Togo, évidemment, avec une nouvelle polémique. Emmanuel Adebayor viendra pas. Ça a été un long feuilleton pour les éperviers. Mais aujourd'hui, la Tunisie, évidemment, qui est bien partie, et également le Libéria, c'est important de le noter. Jules Valentin-Goué, qu'est-ce qui se passe pour les éperviers? Encore et toujours une polémique autour, évidemment, d'Emmanuel Adebayor.
Bien sûr, tout le problème togolais tourne autour d'Adebayor, qui est un joueur instable, disons que mentalement. Donc finalement, l'équipe, quand le joueur a toutes ses capacités, et joue un cran plus haut, et quand le joueur commence à avoir des caprices, et finalement l'équipe prend un coup. Mais pourtant, cette équipe parfois s'exprime bien sans Adebayor, mais il faut dire qu'elle est perturbée.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On va revenir avec vous, Élisée Oumpatine, puisque dans ce groupe A, belle performance du Libéria.
Bien sûr, Nicolas, il faut dire que les Lone Stars ont connu deux Coupes d'Afrique et des Nations dans leur histoire. On se rappelle, en 1996 et 2002, les deux, le capitaine providentiel, Georges Weah, que le présente plus, ancien ballon du sol, d'ailleurs, ballon d'or africain pour le plus olympique de France Football. Aujourd'hui, les Libériens profitent de ce match qui a eu entre la Tunisie et le Togo à Kigali. C'est vrai que les Tunisiens l'ont emporté au match. Mais les Libériens, vainqueurs de leur double confrontation contre Djibouti, se placent à la tête de ce groupe. Il faut le signaler, il faut dire que pour l'édition de 2017 au Gabon, la Lonsa a de belles chances en vertu de sa première place dans ce groupe A, aux dépens de la Tunisie, favorite, et du Togo, principal outsider, avec 2 points d'avance sur les deux équipes. Nicolas, le Libéria devra battre le Togo à domicile en juin prochain et ne pas perdre à Tunis lors de la dernière journée. Les Libériens pourront compter sur les artificiers, il faut le préciser. Et William Gébor, qui fait partie des meilleurs buteurs de ces éliminatoires avec 4 buts. En attendant, donc, c'est une très belle formation libériane qui a désormais sa chance dans ses mains pour pouvoir se qualifier à une 3e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, merci beaucoup, Élisée Oumpatine. On va passer à ce groupe B qui intéresse évidemment tous nos auditeurs congolais. Évidemment, la République démocratique du Congo, les Léopards, qui avaient cette double confrontation avec l'Angola, et la RDC qui s'est imposée, notamment 2-0 lors du match retour en Angola. Avant d'entendre Thierry Kambundi, on va écouter Florent Mbengue, l'entraîneur des Léopards, au micro de Top Congo FM.
On ne peut pas se plaindre quand on gagne 2-0 à la mi-temps à l'extérieur. Vous gagnez 2-0 à l'extérieur, c'est quand même... plus que bien, et vous vous remettez dans la course, vous reprenez la première place et vous êtes à 3 points de la qualification, enfin à une victoire face à la RCA. Donc on ne peut que qu'être satisfait de ce match-là, d'autant plus que si vous voyez le match, il aurait pu être beaucoup plus corsé avec deux faits de jeu hyper importants avec des pénaltys qui ne sont pas sifflés. Mais bon, ça, c'est l'arbitrage en Afrique. De temps en temps, c'est comme ça. Et on ne se plaint pas. On a gagné 2-0 à l'extérieur. C'est une très belle chose.
Voilà, Florent Mbenge, le sélectionneur de la RDC. On va passer évidemment à Kinshasa. On va retrouver notre ami Thierry Kambundi hein, de Top Congo FM. Alors Thierry, on a beaucoup parlé de pénalty litigieux, des arrêts de jeu interminables. Qu'est-ce que vous retenez de cette double confrontation contre les Palancas Negras?
Je note qu'au plan des résultats, les Léopards ont réalisé une très très bonne opération. Le plein des points 6-6. Évidemment, ce penalty au-delà du temps additionnel, au-delà des 7 minutes accordées par l'arbitre lors du match aller, a fait débat ici. Le plus important, c'était la victoire 2-1 au Stade des Martyrs. Les Léopards qui étaient bousculés à la maison le samedi 26 sont allés l'emporter à Luanda alors qu'on avait tous peur justement de ce qui allait se passer au vu de la prestation des Palancas Negras. Ils ont réussi un match accompli. Au plan du résultat, ils ont été plus efficaces, même si dans le match, tout n'a pas été parfait, comme le coach Florent l'a dit. Ils ont réussi un excellent résultat. Au final, 6-6, ils sont en tête et il ne leur reste qu'un match à gagner face aux pauvres de Bazoubangui, qui sont deuxièmes avec 7 points et que les Léopards vont recevoir ici au Stade des Martyrs en septembre pour clôturer ces éliminatoires, pour avoir leur billet pour le Gabon. Entre-temps, ils peuvent aller également négocier un bon résultat comme l'ont fait les Centrafricains et les Angolais à Antananarivo contre les Barrières de Madagascar, dont les Léopards sont très bien partis pour se retrouver en janvier prochain au pays d'Ali Bongo Ondimba.
On espère du côté évidemment de Kinshasa. On rappelle, hein, vous l'avez dit, les fauves du Bazoubangui, belle prestation hein, des hommes d'Hervé Lugundji. On sait que c'est pas facile hein, pour l'effectif centrafricain. On va prendre un premier appel dans Sporama. On va prendre la direction de l'Angola, retrouver Jean-Paul Vangou. Bonsoir Jean-Paul. Alors Jean-Paul, est-ce que vous nous attendez en Angola? Alors vous êtes très très faible. On va essayer de voir en studio si on peut faire quelque chose au niveau du son parce qu'on ne vous entend pas du tout. Jean-Paul, on va faire un dernier essai. Est-ce que vous nous entendez? Voilà, on vous entend très très difficilement malheureusement Jean-Paul. On va prendre un autre appel, on va écouter De Brux Bengala. Bonsoir De Brux.
Bonsoir monsieur, bonsoir.
Voilà, alors De Brux, évidemment, vous nous avez écrit sur notre page Facebook. Vous parliez justement hein, de ce match Angola-RDC, la victoire des Congolais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre?
C'était une rencontre riche en couleurs. Il y a une très grande communauté congolaise vivra ici.
Voilà,
très chaleureux.
Ouais, la connexion est encore très difficile malheureusement avec l'Angola. On va rappeler évidemment les prochaines confrontations Madagascar, RDC et Centrafrique, Angola. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. On rappelle le numéro pour participer en direct 001 202 619 31 40. 001 202 619 31 40. On va également vous saluer tous ceux qui nous suivent évidemment sur notre page Facebook VOA Afrique. Déjà plus d'un million de fans. Continuez. On va parler à présent du groupe C, un groupe qui est dominé par deux équipes ouest-africaines, les Aigles du Mali et les Écureuils du Bénin, qui n'ont pas eu évidemment le même parcours lors de cette journée. Le Bénin qui s'est facilement imposé face au Soudan du Sud, hein, la jeune nation africaine du football, 4-1. Et la Guinée équatoriale qui a été battue à domicile par les Aigles du Mali, 1-0. Élisée Ongpatine, évidemment, vous suivez le Bénin hein, pour VOA Afrique. Est-ce que les Écureuils vont pouvoir aller chercher les Aigles du Mali?
Oui, en attendant Nicolas d'aller chercher les Maliens lors de la dernière journée, il faudra faire une très grande performance à domicile lors de l'avant-dernière journée contre les Équato-Guinéens, puisque ce sera un match piège et un match qu'il ne faut pas du tout perdre hein, en attendant de se déplacer du côté de Bamako, puisque là, véritablement, c'est vrai que les Sud-Soudanais sont difficiles à battre à domicile, mais les Maliens avec beaucoup d'expérience pourront aller chercher les 3 points maintenant, quitte aux Béninois hein, de bien se comporter à domicile en attendant d'aller jouer peut-être la finale de ce groupe à Bamako. Mais pour la petite histoire, Nicolas, il faut dire que quand le Bénin se retrouve dans le même groupe hein, que le Mali la dernière fois, c'était en 2010, eh bien, les Écureuils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en ce moment-là du côté de l'Angola. Maintenant, est-ce que ça va se répéter? Oumar Tchoumougou, très confiant, devra amener cette équipe très loin puisqu'on attend cette qualification depuis près de 7 ans.
Allez, on va prendre un appel d'un auditeur qui nous appelle depuis le Mali. Il s'agit de Bakary. Bonsoir, Bakary. Voilà, on va faire signe qu'on va avoir Bakary après. On va vous poser la question à vous, Jules Valentin Gouet, sur ce groupe, hein, on le rappelle, le Soudan du Sud, hein, qui finalement ne fait pas si mal que ça. Hein, et la Guinée équatoriale, c'est étonnant la Guinée équatoriale, hein, parce qu'il y avait eu évidemment cette belle CAN, finalement à domicile, où on avait pu aller facilement assez loin dans la compétition, les quarts de finale il me semble. Que se passe-t-il pour les Scorpions?
Il faut dire que c'est une poule qui est très serrée et que la Guinée équatoriale a tenu la dragée au Mali pendant longtemps, ce qui n'est pas mal. Et cette équipe surtout a, disons, l'inconvénient d'être, en pleine possession de ses moyens que pendant les grandes compétitions. Donc, entre-temps, lors des éliminatoires et consorts, généralement, ce groupe qui est hétérogène au départ ne retrouve pas encore son fond de jeu réel et son dynamisme offensif. Donc, ce n'est pas étonnant que le Mali et le Bénin se retrouvent en tête de cette poule. Deux équipes qui, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère, sont des équipes qui se connaissent bien, mais qui nous proposent une opposition de style où le plus souvent, le Bénin avait son jeu court, vif, au sol, a posé trop de problèmes au Mali. Alors, on verra ce qui va se passer.
Et justement, on va prendre un appel. On nous fait signe en régie qu'on a Bakary, hein, l'auditeur du Mali. Bonsoir, Bakary.
Bonsoir.
Alors, évidemment, hein, le Mali en tête, le Mali presque qualifié. On a l'impression que ça va se jouer hein, en septembre à Bamako lors du match Mali-Bénin. Est-ce que vous pensez que la qualification est envisageable pour les Aigles du Mali?
Elle n'est pas acquise d'abord, mais quant au match Bénin-Mali, c'est toujours difficile. Mais le Mali gagne toujours sur le fil. Je crois que le Mali et le Bénin quand même pourraient se qualifier. Le Mali sera premier et le Bénin sera quand même le meilleur deuxième.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le Mali. On rappelle hein, évidemment la finale de ce groupe qui aura certainement lieu en septembre prochain à Bamako, Mali, Bénin. On verra ça. On va parler à présent du groupe D, messieurs, hein, le Burkina Faso et l'Ouganda, hein, coude à coude évidemment. Et ce sera intéressant de voir finalement si les étalons pourront évidemment se sortir de ce groupe D. Et là, je voulais voir avec vous, Élisée Mpatine, moi, ce groupe E qui me fascine finalement, puisqu'on a vu que le Congo et la Zambie n'avaient pu se départager évidemment un but partout. Et finalement, la Guinée-Bissau, on n'a pas l'habitude à ce stade de la compétition, notamment face à la Zambie ou au Congo. La Guinée-Bissau qui, pour le moment, est en tête de ce groupe. Hein.
Oui, Nicolas Pinot, il faut le dire, hein, puisque on va parler de cette équipe de la Guinée-Bissau arrivée en phase de poule, hein, déjà un petit espoir hein, pour ce pays. Alors, se qualifier à une première case serait incontestablement la plus grosse performance de l'histoire de cette formation. Aujourd'hui, vous l'avez dit, ils ont de bonnes raisons d'y croire avec une première place dans ce groupe E devant le Congo, surtout la Zambie qui a remporté cette case il y a cela quelques années, même si cette place est grandement due aux deux victoires hein, sur l'équipe qu'on peut qualifier la plus faible hein, de ce groupe, le Kenya. Eh bien, les Bissau-Guinéens avaient créé la surprise, on se rappelle, on a fait un match nul hein, sur la pelouse de la Zambie lors de la première journée. Donc il faut dire que c'est des joueurs qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est une équipe qui joue ensemble, une équipe qui cause pas mal de problèmes hein, à ses concurrents. Donc c'est-à-dire que la finale, ça va se jouer très prochainement avec les confrontations directes contre le Congo et surtout contre la Zambie qui aura lieu. Et là, les Bissau-Guinéens, excusez-moi, pourraient se qualifier pour la première phase de soit une phase finale d'une compétition africaine.
Ah ouais, ce serait évidemment historique. On va parler des Diables Rouges du Congo avec Thierry Kambundji, hein, le voisin congolais. Que se passe-t-il finalement hein, les Diables Rouges qui n'arrivent pas à faire la différence hein, et notamment ce match nul concédé à domicile face au Chipolopolo hein.
justement, hein, les Diables Rouges que l'on suit toujours de très près, de l'autre côté de la rive du fleuve Congo. Alors, après le nul qu'ils ont imposé au Chipolopolo Boys de la Zambie à l'aller en déplacement, on pensait qu'au retour à la maison à Brazzaville, les hommes de Pierre Lechantre allaient mieux, allaient chercher à arracher la victoire, parce qu'au-delà de tout, même si aujourd'hui la Guinée-Bissau est le surprenant leader de ce groupe, on savait que ça devait se jouer entre Congolais et Zambiens. Donc, ils ont commencé par ouvrir le score, ils ont mené dans la grande partie du match, mais ils ont concédé ce but contre qui a relancé les Zambiens, qui leur a fait très très mal. Je pense qu'il faut qu'ils négocient très bien leur prochaine sortie, car à domicile, ils pouvaient faire mieux, ils pouvaient arracher cette victoire face à la Zambie, qu'ils sont allés bousculer à l'extérieur. Donc, les deux prochaines journées s'annoncent dans ce groupe très très, très alléchant.
Allez, on va prendre un autre appel, hein, la République démocratique du Congo. Il s'agit de Christian. Bonsoir, Christian.
Bonsoir.
Alors, Christian, évidemment, vous nous avez contacté sur VOA Afrique. Vous nous avez dit carrément que la RDC était qualifiée. Alors, pas encore, hein, pas encore. Ils en sont proches, Christian, mais mathématiquement, ils ne sont pas encore qualifiés. Qu'est-ce que vous pensez du bon parcours des Léopards ?
Non, moi, pour moi, le Léopard a fait. Les Léopards de la RDC ont fait un très excellent parcours en battant. Et on considère également des matchs. Je vous rappelle le dernier match, les deux derniers matchs qualifiés la République démocratique du Congo en aller contre l'Angola et au retour à Luanda de l'autre côté. Vous avez le résultat et je parie bien que tous les adversaires avec lesquels la RDC va croiser sur son chemin, il n'y a pas cadeau, il n'y a pas de chance. C'est ce que j'avise à tous ceux qui sont adversaires de la RDC. Et pour cela, vous avez vu les tactiques que met en place le coach Florent Ibengué, un technicien qui fait un parcours pas un très grand parcours, mais un parcours excellent auquel aucune des nations africaines ne pourrait lui accorder cette chance, mais il l'a prouvé sur sa propre terre avec une sélection de Léopards très impeccable avec des différents talents en livrant des matchs, je ne sais comment les expliquer. Vous l'avez vu également au Chan, le résultat qu'a donné le coach Ibengué précédemment avec la CAN en décrochant la troisième place. Et parmi ses objectifs, c'est de décrocher la finale et remporter également la Coupe de la CAF qui aura lieu très bientôt.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Christian de nous avoir appelé depuis la République démocratique du Congo. On va traverser le continent, on va partir au Mali, retrouver Kaba Diabaté. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Kaba, on l'a dit, hein, cette victoire importante hein, acquise en Guinée équatoriale de la part des Aigles du Mali, vous y croyez-vous hein? Vous nous avez dit sur Facebook que vous croyez à la qualification. Hein.
Oui, je crois vraiment à la qualification des Aigles. Vu le parcours fait à l'aller à Bamako et le retour en Guinée équatoriale, ben je suis sûr que les Aigles se qualifieront.
Ouais, et qu'est-ce que vous pensez finalement hein, du style de jeu de l'équipe d'Alain Giresse ?
Ben, le style de jeu des Aigles du Mali, d'Alain Giresse, je trouve que c'est bien, mais c'est-à-dire tous les joueurs n'étaient pas au rendez-vous de l'aller et de retour de Guinée équatoriale. Sinon, leur jeu, leur style de jeu, ça me plaît. C'est bon.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous depuis le Mali. On salue tous ceux qui nous écoutent, notamment à Bamako. On va parler du groupe F, le premier pays qualifié. Il s'agit du Maroc, après la belle victoire contre le Cap Vert. Jules Valentin Gouet, encore une fois, Hervé Renard, hein, qui donne satisfaction sur le continent. On aurait aimé qu'il puisse avoir la même réussite avec le club de Lille, mais ça marche bien pour Hervé Renard. Avec cette troisième équipe africaine, on le rappelle, après la Zambie et la Côte d'Ivoire, va-t-il permettre aux Lions de l'Atlas, selon vous, de décrocher ce trophée?
Oui, bien sûr, Hervé a porté incontestablement son, son agressivité positive et le culte de la gagne à l'équipe du Maroc qui en manquait et sérieusement depuis quelque temps. Et les Marocains ont souvent un bon effectif, un jeu collectif plaisant et ma foi respectable, mais ils ont gagné, ils ont perdu beaucoup en efficacité.